Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Les 40 ans de l'abolition de la peine de mort avec au Panthéon une cérémonie pour commémorer la promulgation de la loi le 9 octobre 81. Robert Badinter, ministre de la Justice de François Mitterrand, qui a fait voter la loi à l'Assemblée ce matin au Panthéon.
La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité.
Emmanuel Macron annonce que la France va relancer le combat pour l'abolition universelle. Nous serons au Panthéon dans un instant. Édouard Philippe lance son propre parti ce matin chez lui au Havre, une nouvelle formation politique pour soutenir Emmanuel Macron, mais vu d'un œil critique par certains macronistes. Dans ce journal également, la taxe mondiale de 15% sur les bénéfices des multinationales, un accord au rabais, dira Oxfam, les élections législatives demain en Irak, et notre rendez-vous du samedi 13h avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine dans la Station Spatiale Internationale. Le temps anticyclonique pour cet après-midi et pour demain. Jean-Michel Goulinski à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, les Pandora Papers, la plus grande enquête jamais réalisée sur l'évasion fiscale. On fera un tour de quelques situations suspectes que nous avons identifiées en France.
Jacques Monin, secret d'info, après ce journal. Une commémoration
France Inter.
Une commémoration historique avec une dimension politique. Emmanuel Macron a célébré au Panthéon les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Le président de la République a participé donc ce matin à cette cérémonie officielle avec Robert Badinter, personnalité de gauche et qui incarne la loi promulguée le 9 octobre 1981. L'occasion également pour Emmanuel Macron d'annoncer que la France va relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort au moment où certaines voix dans la campagne estime que cette abolition de la peine de mort en France a été une mauvaise décision. Sur place au Panthéon, on retrouve Élodie Forêt. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Robert Badinter s'est exprimé en premier, puis Emmanuel Macron.
Oui, Robert Badinter et Emmanuel Macron qui ont franchi ensemble les portes imposantes du Panthéon, l'ancien garde des Sceaux, qui en 40 ans n'aura rien perdu de son éloquence pour défendre l'abolition de la peine de mort, cette honte pour l'humanité. Robert Badinter, à qui le président Macron a ensuite rendu hommage, ainsi qu'à François Mitterrand, qui eut le courage de mettre carte sur table et de promettre cette abolition, la fin de cette justice qui coupe les hommes en deux. Hommage aussi à Jacques Chirac, grâce à qui ce fut inscrit dans la Constitution. Et message très politique adressé à ceux qui souhaitent le rétablissement de cette peine de mort.
À ceux qui défendent cette justice qui tue, lisez le témoignage de Monique Mobelli, qui, magistrate commise d'office, a consigné dans des lignes glaçantes le déroulement de la dernière exécution réalisée en France. Et dites-moi, dites-nous, si vous n'êtes pas saisi par le vertige de l'effroi face à la machine aveugle, métallique, de l'administration de la mort.
Une interpellation loin d'être anodine alors que le polémiste Éric Zemmour, candidat putatif à la présidentielle, s'est récemment dit philosophiquement pour la peine de mort. Emmanuel Macron lui relance aujourd'hui le combat pour l'abolition universelle, l'une des priorités donc de la France lors de sa prochaine présidence de l'Union européenne.
Élodie Forêt avec Éric Audra, merci. La peine de mort encore en vigueur dans 54 pays dans le monde et parmi ces États, Robert Badinter l'a rappelé, l'Égypte qui était l'année dernière, selon Amnesty International, le troisième pays qui a exécuté le plus de personnes. Le nombre de condamnations à mort a bondi en Égypte sous le règne du président Al-Sisi. Et malgré la répression, certaines ONG militent pour l'abolition de la peine de mort comme l'organisation Initiative pour les droits personnels. Martin Roux a rencontré au Caire l'une de ses militants.
Au sein de l'initiative égyptienne pour les droits personnels, militer pour l'abolition de la peine de mort passe par l'information. Aucune publication officielle sur le nombre d'exécutions pour les chercheurs de cette ONG. Il s'agit donc d'éplucher la presse pour rendre compte de l'ampleur du phénomène. 131 exécutions l'an passé, déjà plus de 50 cette année. Des chiffres très probablement sous-évalués selon cette chercheuse qui souhaite rester anonyme.
Il est probable que ce soit plus important que ce qui est publié dans dans les médias. Le fait que ces informations demeurent secrètes est en soi une infraction. Et cela reflète que des violations plus profondes sont perpétrées.
En effet, pour nombre de détenus politiques majoritairement islamistes, ces condamnations à mort sont prononcées à l'issue de procès injustes.
Particulièrement dans les affaires politiques, les violations débutent dès l'arrestation, notamment avec les disparitions forcées. Puis au cours de l'enquête, les détenus peuvent être privés d'avocats, parfois torturés. Et ces violations sont généralement cautionnées.
Suite à la publication d'un précédent rapport sur cette frénésie d'exécution, trois membres de cette ONG ont été l'année dernière temporairement arrêtés. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Un nouveau parti créé ce matin au Havre, Édouard Philippe a lancé ce matin sa propre formation dans sa ville et devant ses supporters. L'ancien Premier ministre a prononcé un discours où le moindre mot va être pesé et surtout interprété. Édouard Philippe, qui marche pour le président de la République, veut élargir vers la droite le socle des soutiens à Emmanuel Macron. On retrouve en direct du Havre Maxence Lambrecq. Bonjour Maxence.
Bonjour, bonjour à tous.
Un nouveau parti vu d'un œil critique par certains macronistes, mais qui ont pourtant besoin du soutien de l'homme politique populaire.
Et oui, debout, sur scène, sans notes, sans prompteur, costume, cravate, bleu nuit, fond noir, grand écran, et selon son équipe, 3000 personnes dans la salle, dont un ministre, 60 parlementaires et 160 maires. Édouard Philippe présente d'abord, pour prendre de la hauteur, les quatre vertiges du moment, démographique, environnemental, technologique, géopolitique, et alors qu'Emmanuel Macron va présenter mardi son plan France 2030, eh bien lui trouve qu'il manque une stratégie à l'horizon 2050. Il promet un combat au long cours, d'abord de l'ordre dans les comptes et dans les rues.
Quand je dis qu'il faut impérativement mettre ou remettre l'ordre dans nos comptes et dans nos rues, je ne suis certainement pas en train de critiquer le président. Les sujets dont je vous parle sont des sujets qui ne sont pas des sujets d'actualité immédiate.
Se projeter loin, très loin, pour éviter la confrontation avec Emmanuel Macron. Mais il ne peut pas s'empêcher de revenir sur la question des retraites et sa proposition de réforme.
Le débat public a dit, il propose 67. Non, j'ai dit 65, 66, 67. Non, c'est 67, il a dit 67, c'est 67. Mesdames et messieurs, d'où je tire ces chiffres? Pas de mon chapeau. Pas d'une espèce de prédisposition à l'impopularité. Pas d'une envie de choquer. Ces chiffres, si je les donne, c'est parce qu'ils existent.
Des chiffres, il s'en affiche toutes les 5 minutes sur l'écran derrière lui. Il se veut le plus factuel, le plus didactique possible. C'est un long discours de droite qu'il propose, déjà 1h20. Il cite Nicolas Sarkozy et personne n'applaudit. La salle attend toujours le nom, le logo de ce parti. Au Havre, Georges Thau, Maxence Lambrecq, France Inter.
Cette information de France Bleu Gironde, un chauffard alcoolisé s'est encastré en pleine nuit dans une maison. Deux femmes sont mortes dans leur lit. Le véhicule a percuté un trottoir du mobilier urbain avant de s'encastrer dans le mur de l'habitation derrière lequel se trouvait la chambre à coucher. Les deux femmes âgées de 46 et 48 ans qui dormaient sont mortes sur le coup. Dans une autre chambre, une enfant de 11 ans, la fille de l'une des deux victimes, a été légèrement blessée. La grande réforme fiscale internationale est donc sur les rails avec une taxe mondiale de 15% sur les bénéfices des multinationales et notamment les géants d'Internet, les GAFAM. Cet accord à 136 pays sur la taxation mondiale va permettre de lutter contre l'optimisation fiscale et si 4 pays refusent encore de signer, plus aucun pays en Europe ne s'y oppose après le ralliement de l'Irlande, l'Estonie et la Hongrie. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire parle d'une révolution. Oxfam, de son côté, parle d'un accord au rabais. Quentin Parinello, responsable du plaidoyer sur la justice fiscale chez Oxfam France.
L'Irlande a signé cet accord puisque dans les derniers jours, elle a obtenu énormément de contreparties dans cet accord. Et notamment le fait de dire, ok, l'Irlande va remonter son taux d'imposition qui était de 12,5 à 15% en échange de fortes contreparties. Ce qu'il faut savoir, c'est que les multinationales en Irlande, elles payaient pas 12,5% d'impôts. Elles payaient beaucoup moins d'impôts, 3 à 4% de taux effectif. Et dans le cadre de cet accord, à 15%, il va y avoir énormément d'exonérations, notamment dans les 10 premières années, mais également ensuite, qui vont permettre aux multinationales de baisser leur taux d'imposition en deçà de 15%.
Mais elles paieront davantage quand même ou elles seront au même niveau que jusqu'à présent?
Mais c'est toute la question. Sur certaines projections que Oxfam a pu faire, on trouve que certaines multinationales pourront payer encore une fois 3 à 4% d'impôts sur leurs bénéfices. Le fait de normaliser l'existence de certains paradis fiscaux à des taux très très bas, c'est un problème pour la compétition fiscale, y compris parce que, vous voyez, la semaine dernière, on avait encore un scandale d'évasion fiscale et on nous pose encore une fois la question aux ONG, mais comment ça se fait que les paradis fiscaux prennent autant de place? Comment ça se fait qu'il y a encore des scandales d'évasion fiscale? La réponse, elle est là.
À l'étranger, en Irak, un scrutin sans passion et sans espoir lors des législatives qui auront lieu demain. 25 millions d'Irakiens sont appelés aux urnes pour ces législatives anticipées, censées être un symbole du changement après la contestation populaire qui avait embrasé le pays à l'automne 2019 et durement réprimée. 600 morts, 30 000 blessés. Pourtant, la plupart des partis qui appellent aux réformes ont décidé de boycotter ces élections pour protester contre une situation qui ne change pas. Sur place à Bagdad, Aurélien Colli.
En octobre 2019, Mohamed était en première ligne de la révolte populaire, témoin direct d'une répression sanglante menée par les partis au pouvoir, les milices proches de l'Iran et les forces de l'ordre, raconte le jeune homme. Et deux ans plus tard, pas question de participer à ces élections que réclamait pourtant la rue. Pas avec des corrompus et des assassins, tranche le militant, toujours actif sur les réseaux sociaux, alors que d'autres ont fait le choix de l'engagement politique, mais rejettent aussi ce scrutin. Oui, c'est la démocratie, mais le gouvernement devait écarter ces partis liés à des groupes armés qui ont tué, explique Wissam Jafar de Beit El Watani, une formation née de la révolte de 2019 qui a décidé de boycotter. Né aussi de la colère populaire, le parti Imtidad a décidé de se lancer. On défie le langage des armes et du mépris du pouvoir. On veut que l'Irak devienne un pays moderne. Oui, on a reçu des menaces, mais on fait face, insiste Moussad al-Riji, candidat à Bagdad qui veut croire au changement. C'est un combat très difficile. Il y a eu des enlèvements, des intimidations, des assassinats. Mais c'est un signe positif que ces nouveaux partis aient émergé, estime de son côté la politologue Marcine al-Shamari, en concédant toutefois que leurs chances d'entrer au Parlement restent quasiment nulles. Bagdad, Aurélien Colli, France Inter.
La mort ce matin à Paris de Bani Sadr, le premier président de la République islamique d'Iran, réfugié politique à Paris depuis 1981. Abou Hassan Bani Sadr avait 81 ans. La fascination pour Al Capone lors d'une vente aux enchères hier en Californie, 174 objets ayant appartenu au chef de la pègre le plus redouté pendant la prohibition ont été mis aux enchères par la petite fille du chef de la mafia de Chicago et notamment une lettre affectueuse à son fils ou son Colt préféré. Certaines pièces se sont écoulées pour plusieurs milliers, centaines de milliers de dollars. Les enchères ont eu lieu à Sacramento, au nord de la Californie, à 150 km de la prison d'Alcatraz, où Capone a passé 7 ans pour fraude fiscale. Loïc Piala, à Las Vegas.
Le site internet des enchères a eu du mal à gérer les nombreuses connexions, signe de la fascination toujours exercée par Al Capone, 74 ans après sa mort. Sans surprise, les armes du gangster ont attiré les acheteurs. Un Colt 45, présenté comme le préféré de Scarface, s'est vendu pour 860 000 dollars, très au-delà de la plus haute estimation. Un Colt semi-automatique de 1908 est lui parti pour 200 000 dollars. Les bijoux, autre attirail cliché des bandits, ont également eu du succès, dont une montre à gousset Patek Philippe, sertie de 90 diamants et portant les initiales AC. Une lettre écrite à son fils, Sonny, depuis Alcatraz, a aussi trouvé preneur pour 45 000 dollars. Diane Capone, la petite fille du gangster, espère que les mots tendres contenus dans les trois pages de cette correspondance donneront une image différente, plus humaine de son grand-père, qui a régné toute une décennie sur la pègre de Chicago. À Las Vegas, Loïc Piala pour France Inter. 4, 3, 2, 1,
liftoff. Notre rendez-vous dans l'espace avec Thomas Pesquet, l'astronaute français dans la Station Spatiale Internationale depuis fin avril, est devenu lundi commandant de bord de l'ISS, une nouvelle responsabilité pour les 5 dernières semaines de mission. Un honneur pour Thomas Pesquet, mais aussi un surcroît de travail. Il se confie, comme chaque semaine, à Sophie Becherel.
Fait inhabituel, Thomas Pesquet a pris le commandement de la Station Spatiale Internationale la veille de l'arrivée de 3 nouveaux résidents. Parmi eux, un duo d'amateurs, Yulia Peresild, actrice, et Klim Chiparov, réalisateur. Ils tournent en ce moment quelques séquences d'un film, le premier réalisé par des professionnels du cinéma dans une station orbitale. Parce qu'ils sont arrivés dans un vaisseau Soyouz, ces nouveaux venus passent l'essentiel de leur temps dans les modules russes de la station. Finalement, Thomas Pesquet et son équipage ont assez peu à faire à eux, comme il nous l'explique.
Oui, on commence avec une tâche qui n'est pas habituelle. C'est vrai qu'on a, dans notre monde à nous, on est tous un peu les mêmes, enfin les mêmes, on a la même formation, on se connaît tous, on s'entraîne ensemble, on a plus ou moins la même vie. Là, c'est des gens qui arrivent complètement de l'extérieur, qui sont pas du même monde, enfin sans que ça soit péjoratif non plus, mais c'est juste deux mondes un peu différents qui se rencontrent. Mon rôle là-dedans, c'est de veiller à ce que tout se passe bien, en fait. Ils n'ont pas reçu d'entraînement sur une grande moitié de la station, hein, juste sur le côté russe. De notre côté à nous, il faut faire attention. La décision, c'est qu'ils peuvent pas venir sans être accompagnés. On n'a pas envie qu'ils se cognent dans quelque chose, qu'ils appuient sur un bouton ou quoi que ce soit. On veille à ce que tout ça se passe bien, mais tout en restant cordial. Donc c'est un peu de l'entre-gens, c'est-à-dire que il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un environnement où il y a des règles qui sont assez strictes. C'est à moi de les faire respecter. Et en même temps, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde s'entende à bord du navire, en fait. On n'est pas là pour se regarder en chien de faïence et que ça se passe mal. Évidemment, on va les convier à un dîner spatial qu'on n'a pas encore le temps de faire, mais c'est pas un banquet de fin de livre d'Astérix, mais c'est quand même une tradition, sauf que la nourriture vole au-dessus de la table. Et donc, on va peut-être partager quelques histoires avec eux, peut-être aussi qu'eux auront des trucs sympas à raconter, et puis... Encore une fois, une manière un peu différente de voir les choses, ça va être, je pense, au final, très sympa.
Est-ce qu'ils sont totalement sous votre responsabilité ?
Oui, en tant que commandant, tout le monde est sous ma responsabilité. Enfin, c'est à moi de veiller à ce que tout se passe bien. Là, évidemment, côté russe, il y a toujours un responsable du segment russe. Quand le commandant est du côté plutôt américain, Europe, Japon et Canada, donc il y a toujours en gros un numéro 2 dans la station. Là, mon numéro 2, c'est Oleg, clairement, pour le segment russe. Ils sont hébergés du côté russe. Évidemment, on leur a présenté toutes les règles de sécurité. On leur a fait une visite de la station. Mais la vie de tous les jours, la nourriture, la toilette, etc. Ça, c'est plutôt nos collègues russes qui sont occupés de les briefer. Bon, évidemment, Megan étant la seule fille à bord, elle a eu évidemment un peu d'attention pour Yulia. Mais voilà, ça se passe très très bien. On les voit de temps en temps tourner. Ils tournent avec Klim, qui est le réalisateur, tourne avec un casque de rugby pour pas se cogner, en fait, parce que quand il regarde sa caméra, il regarde pas vraiment ses déplacements. Enfin, il essaie de faire attention, mais évidemment, il a pas l'expérience d'avoir vécu 6 mois, 1 an dans l'espace. C'est ses premiers jours, donc il est encore un peu malhabile. Et on avait l'inquiétude qu'il se cogne un peu la tête, et du coup, il tourne avec un casque de rugby pour se protéger. C'est assez marrant à voir.
Cette semaine, on a vu que la culture de poivrons avait l'air de bien marcher, et vous semblez prendre goût au jardinage.
Ouais, après presque 6 mois maintenant, sans avoir vu la nature, la terre, la verdure, peut-être on devient un petit peu plus sensible. Mais c'est vrai que c'est un côté sympa. Chaque fois qu'on ouvre le rack où ces plantes sont en train de grandir, tout le monde vient faire un tour, prend une photo. C'est assez rigolo, en fait. On ne pensait pas que ça créerait un tel engouement, entre guillemets. Non, je pense que c'est aussi parce qu'on commence à penser au retour. Une plante, quelque chose qu'on fait grandir, c'est un peu un lien avec la vie, un lien avec la terre, un lien avec la terre nourricière, je sais pas, un truc un peu profond, un peu atavique de l'être humain, peut-être. Mais effectivement, on s'y est attaché. Puis après, de manière plus prosaïque, ça nous fera de la nourriture un peu fraîche, hein, même si c'est du piment, c'est des piments qui sont pas très forts. Donc on a hâte aussi de les incorporer au menu de manière assez prosaïque.
Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet avec Sophie Becherel, à retrouver sur franceinter.fr. Une équipe française en finale de la Super League de rugby à 13, considérée comme le championnat d'Angleterre. Les Dragons catalans de Perpignan disputent ce soir la première finale de leur histoire face à l'élite anglaise du rugby à 13. Ils affrontent l'équipe de Sainte-Hélène, double tenant du titre et 8 fois vainqueur de ce championnat, seul championnat professionnel en Europe. La finale a lieu dans le stade mythique d'Old Trafford à Manchester, coup d'envoi à 19h. En football, Adrien Rabiot est forfait pour la finale de la Ligue des Nations demain soir contre l'Espagne. Le milieu de terrain des Bleus a été testé positif au Covid-19. Adrien Rabiot a été placé à l'isolement. On termine avec le choix culturel de ce week-end et du théâtre avec une pièce de Fassbinder inédite actuellement au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. 8 heures ne font pas un jour dans une mise en scène de Julie Deliquet. Il s'agit de l'adaptation d'une série en 5 épisodes que Fassbinder avait réalisé en 1972 pour la télévision allemande et qui n'a jamais été diffusé en France. La version théâtrale n'a jamais été montée dans le monde, Stéphane Capron.
Fassbinder a 26 ans. Quand la télé allemande lui passe commande de cette série, il choisit de croquer le quotidien d'une famille d'ouvriers à Cologne. Les épisodes se partagent entre la vie dans l'usine et les réunions familiales. On est très loin de l'univers sombre de Fassbinder. Ici, les personnages sont lumineux, remplis d'espoir, avec l'envie de changer le monde. Une sorte de joie de vivre règne sur le plateau et dans la mise en scène de Julie Deliquet.
Pour la première fois, il a placé la série familiale au cœur du milieu ouvrier. il faut penser quand même qu'en RFA, à l'époque, la moitié des actifs sont ouvriers. Du coup, il a changé un petit peu sa tonalité avec une œuvre très positive, bourrée d'utopie, d'humour, d'humanité. C'est une œuvre d'acte. Pour moi, c'est des acteurs, en fait, ces personnages-là. C'est des gens qui agissent, quitte à ne pas toujours être dans la loi, pour chercher plus de justice sociale.
Après le succès de la série, la télé allemande commande 3 autres épisodes, mais qui ne seront jamais tournés. Si dans la forme, le spectacle est joyeux, dans le fond, les thématiques chères à Fassbinder sont bien présentes. Les luttes sociales, le racisme, les violences faites aux femmes. La mise en scène de Julie Deliquet est brillante. C'est le spectacle le plus réjouissant de cette rentrée théâtrale.
C'est le tube de l'été 72 en Allemagne que l'on entend dans la pièce 8 heures ne font pas un jour de Fassbinder, actuellement au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Jean-Michel Gulinski.
Un temps partout très calme cet après-midi avec une évolution favorable vers le soleil, des paquets de grisaille de la matinée. Malgré tout, l'ambiance va rester quand même assez brumeuse cet après-midi entre les Hauts-de-France, la Normandie, également dans le sud-ouest du Val-de-Saône à l'Auvergne et sur l'est de la Corse. Avec cet après-midi, l'installation progressive d'un voile nuageux sur la pointe nord-ouest et de la formation de cumulus sur le relief du sud, donnant possiblement une ondée sur la Corse, le tout dans les températures stationnaires par rapport à hier, de l'ordre de 20 à 22 de l'intérieur de la Bretagne au Poitou-Charentes, de 22 à 24 près de la Méditerranée et sur l'Aquitaine, et il fera 17 en moyenne sur une large moitié est du pays. Demain, pas de changement, toujours un réveil dans le gris, suivi de soleil, mais sous une nébulosité qui restera plus importante qu'aujourd'hui, notamment au nord de la Loire, près des Pyrénées, et des Alpes du Sud, à la côte d'Azur.
Jean-Michel Gulinski, de Météo France.